13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé. Trois lettres qui prennent soin de vous tous les jours. Entre midi et 13h sur Beurre FM. Ravi de vous retrouver. Ali Habibi est avec nous. Bonjour Ali.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe.
Thérapeute du couple et de la famille. Ça va bien Ali?
Tout va bien.
Bien, vous savez que Jamel Debbouze disait ce week-end qu'il se servait de ses spectacles pour faire sa thérapie.
Bah oui, comme tous les artistes.
Ouais, moi je me sers de la radio aussi.
Oui.
Voilà. Nous allons parler de la thérapie aujourd'hui avec Maximilien Bachelard, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous publiez l'approche intégrative en psychothérapie. En quoi est-ce que vous êtes un thérapeute non orthodoxe?
Alors vous avez répondu à la question finalement, parce que c'est une approche interrogative, finalement j'aurais pu l'appeler comme ça. L'idée, c'est de pouvoir essayer de comprendre comment approcher une personne, sachant que, historiquement, depuis plusieurs décennies, on a différents modèles pour comprendre les gens, pour pouvoir comprendre pourquoi ils ont des problèmes, comment les aider à en sortir. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'on peut pas peut-être mixer, peut-être rapprocher certains modèles, certaines modélisations qui n'ont pas l'air de pouvoir s'accorder ensemble. En France, on n'a historiquement pas l'habitude de faire ça. En France, on a plutôt, on va dire, une préférence pour certaines chapelles. Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres ont cette tendance à faire ça. Et l'idée de ce bouquin, c'était d'amener une certaine ouverture, à amener un dialogue.
Voilà, voilà, mais ce sont d'abord, c'est pas nouveau comme mouvement. Hein. C'est milieu du 20e.
Oui.
Et finalement, à l'étranger, on s'intéresse beaucoup plus à cette question qu'en France.
Exactement.
C'est en France que les gardiens du temple...
Et de la résistance.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Alors, il y a ça. Il faut savoir quand même qu'un bouquin qui ne parle uniquement que de cela, eh ben, il n'y en avait pas. C'était le premier. Pour tout vous dire, dans la bibliographie, 90% ou 95% des références sont anglo-saxonnes. Et donc, j'ai dû finalement traduire beaucoup de choses et puis m'intéresser à ces rapprochements. Non pas finalement qu'on n'ait pas les bouquins en France, mais qu'en pratique, on a quand même du mal à pouvoir rapprocher les choses.
Bien. Et cette question de l'intégration nous renvoie à celle de ce qu'est une psychothérapie. C'est ce qu'on va voir ce matin, essayer de comprendre comment est-ce qu'on choisit sa thérapie quand on en a besoin. Alors, que désigne le terme intégrative dans psychothérapie intégrative?
Alors, c'est la possibilité de pouvoir mixer différentes approches, utiliser différents outils pour pouvoir aider une personne à atteindre un objectif particulier. Maintenant, le propos, c'est de se dire que si vous regardez les gens avec une certaine approche, vous ne les verrez pas de la même manière avec une autre approche. Si vous êtes psychanalyste, vous n'allez pas forcément vous intéresser aux apprentissages des gens. Si vous êtes plutôt comportementaliste, vous vous en fichez complètement de l'inconscient. Donc, l'intégration, pour moi, le plus intéressant à vous transmettre, c'est de se dire, quand je rencontre une personne, finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir déployer comme outil, comme connaissance, pour pouvoir comprendre son vécu et pour pouvoir l'amener à finalement un mieux-être. Si on reste bloqué dans un modèle, on peut avoir cette tendance à aller dans une seule direction. Quand une personne me dit qu'elle ne va pas bien dans son couple, par exemple, il va être important d'avoir une approche assez ouverte pour peut-être comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière le couple. Si je suis thérapeute de couple, j'aurais tendance à m'intéresser uniquement à ça. Et donc l'idée, quand on est dans une approche intégrative, c'est de pouvoir mobiliser différents savoirs à ma disposition pour pouvoir aider au mieux les gens. Ça ne veut pas dire qu'on peut aider tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est une approche, on va dire, en pot pourri où on va mettre tout à l'intérieur, que tout vaut pour tout, mais c'est de pouvoir s'armer de différentes choses. Puisque, comme je l'explique dans le bouquin, ça va un peu avec l'expression « celui qui a un marteau ne voit que des clous ». Quand on a tendance à se promener avec un marteau, on voit des clous partout. Qu'est-ce que veut dire mon propos derrière? Ça veut dire que si vous êtes comportementaliste, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Si vous êtes psychanalyste, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Si vous êtes thérapeute systémicien, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Donc ça renvoie au fait que chaque psychothérapie a une limite. Ça permet de définir un peu ce que c'est qu'une psychothérapie. Au final, c'est un système qui permet d'aider une personne, mais ça ne permettra pas d'aider tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour une psychothérapie, notamment.
Bien, ça marche pour la citronnade et la limonade.
C'est-à-dire?
C'est un exemple que j'ai pris dans votre livre. Hein. Vous parliez de l'exemple de la limonade en disant que finalement, c'est de l'eau, du citron et du sucre.
Exactement.
Et que finalement, quand on les mélange, eh ben, ça fait une interaction.
Oui, exactement. Alors, c'est vrai que j'ai pris des métaphores culinaires parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai eu dans mon parcours un peu particulier un temps d'arrêt par rapport à ma profession où je me suis formé en cuisine pendant un an.
Ah ouais, je ne comprenais pas.
Tout
sens. Mais ça s'explique finalement.
Tout s'explique, parce qu'il y a beaucoup d'allusions culinaires justement.
Mais ouais, je me demandais pourquoi il y avait tellement de métaphores culinaires.
Quand il écrivait.
Exactement. Donc dans la première.
Ah, mais écrire donne faim, Ali. Hein.
Oui.
Exactement. Et c'est le cas d'ailleurs en ce moment pour moi. Dans les remerciements, je remercie l'école où j'ai pu être formé, les deux chefs qui m'ont donné une certaine inspiration. Mmh. Et c'est vrai que pour moi, quand vous rencontrez une personne, il est compliqué d'avoir, on va dire, un modèle avec des étapes à franchir. C'est très compliqué ça. Vous savez pas exactement qui vous allez rencontrer. De la même manière, moi je vous rencontre aujourd'hui, je sais pas exactement à quoi m'attendre et il y a des choses que je ne peux pas anticiper. J'aurais pu venir avec une feuille, j'aurais pu venir avec un protocole de réponse. Vous seriez ennuyé, moi aussi, et puis on serait passé à côté de quelque chose. Mmh. Et en psychothérapie, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qu'on ne peut pas réduire à des modèles.
Alors, vous dites que c'est pas fait pour tout le monde, la psychothérapie. À quel moment les gens peuvent se poser la question de savoir si, alors, s'ils vont et s'ils sont faits pour une thérapie? Alors, je sais pas s'il y a des psychothérapies, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies. C'est un grand supermarché aujourd'hui. C'est devenu un hypermarché d'ailleurs aujourd'hui.
Exactement, avec en plus des modèles qui sont créés qui parfois n'ont pas vraiment d'originalité, pas forcément d'intérêt. Il faut quand même comprendre que les choses fonctionnent aussi parce que la société les met en avant. Donc parfois on recrée des choses qui on a réinventé le fil à couper le beurre, mais les gens se disent ah ça va marcher. Je vais pas vous faire le coup de la crème anti-ride, mais voilà, il y a quand même finalement parfois dans le produit rien de neuf, on va dire. Mais quand vous faites une psychothérapie, il faut déjà y croire un minimum, il faut une certaine motivation. Et si tout le monde vous dit, va voir ce thérapeute, il m'a aidé, j'y croyais pas, vous êtes déjà dans le début d'une certaine conversion et dans la possibilité de vous investir dans quelque chose. Donc il faut bien évidemment avoir des attentes, avoir une certaine motivation. Et puis il y a la question de la souffrance. C'est un sujet un peu compliqué, un peu tabou, mais pour tout vous dire finalement, si vous n'avez pas de raison de changer, je ne vois pas pourquoi vous le feriez. Voilà. Donc si vous venez me voir et que vous me dites que votre femme a un gros problème et que vous pensez que vous n'en avez aucun, on va pas pouvoir rester sur cette longueur d'onde pendant longtemps. Ou alors à faire que votre femme vienne.
Ou alors, il va falloir changer de femme.
Ou il va falloir changer de femme.
Ouais.
Par contre, ce qui m'intrigue, c'est si vous venez à 5-6 rendez-vous et que vous tournez en boucle avec ça, je me demande ce que vous êtes en train de faire devant moi pendant 5-6 rendez-vous à me dire que votre femme ne va pas bien. Donc, je pense que le psychologue ou le psychothérapeute ou le psychiatre ou ce que vous voulez, en tout cas le psychothérapeute au sens large, doit pouvoir évaluer en profondeur ce qu'il y a derrière. Je prends la parole, mais Ali, tu peux m'arrêter.
Oui, non, mais c'est très bien, je t'écoute.
Évidemment. Il y a quelque chose que j'ai essayé de faire comprendre à travers ce bouquin aussi et qui peut parler aux gens, c'est la différence entre ce dont les gens ont besoin et leur demande. Je vous donne un exemple très concret, très basique. Peut-être que la personne se reconnaîtra. La semaine dernière, j'ai un monsieur qui m'appelle et qui me demande si je fais des tests de QI, des tests d'efficience.
Ça marche. C'est...
Voilà, j'ai ça en horreur personnellement, puisque évidemment, maintenant, 90% des enfants sont hyperactifs et précoces intellectuellement. Voilà.
Ouais. On a eu l'occasion de beaucoup en parler, mais ça arrange tout le monde.
Ça arrange tout le monde.
C'est une mode qui réconforte les parents et qui les valorise.
Et ça fait tellement plaisir d'avoir un enfant plus intelligent que les autres. Enfin, le problème, c'est quand ils sont tous plus intelligents que les autres.
C'est quand on se pose la question. Et surtout quand l'enfant est malheureux, il comprend pas soin de vraiment écouter ses attentes et ses besoins et vraiment travailler sur l'enfant, mais qu'on est plus dans la valorisation des attentes des parents par rapport au sourdoiement de l'enfant que de ce que vit l'enfant et les difficultés qu'il peut avoir à l'école.
Donc ce monsieur vous appelle, il veut un test de QI.
Oui.
Et
alors ben justement là on est face à quelque chose de très intéressant là dont on parle avec Ali, c'est que ce qui va être important c'est la posture du psy en face. Je lui demande pourquoi il veut faire un test de QI, il a pas vraiment envie de m'expliquer, je lui dis écoutez moi c'est un peu compliqué de venir dans un endroit de me demander d'utiliser tel outil sans m'expliquer ce qui vous arrive. Donc il consent à m'expliquer que ses enfants sautillent un peu partout, sont un peu hyperactifs. Et il m'explique que le deuxième, en fait c'est pour deux enfants, le deuxième finalement a des résultats moyens à l'école mais qui se pousse pas trop, qui pourrait être meilleur que ça. Donc je lui dis vous êtes quand même pas en train de me dire que vos enfants sont surdoués. Donc là il y a un gros blanc au téléphone et je lui dis mais vous savez peut-être que vos enfants ont des besoins derrière, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas et moi je sais pas si je dois en parler avec vous, si vous en avez envie, mais en tout cas moi je ne fais pas de test de QI parce qu'on me l'a demandé. Et donc là la personne à ce moment-là je la perds. Parce qu'elle n'est pas prête à comprendre le besoin. Et je lui dis, mais alors pourquoi vous voulez faire un test de QI? Il me dit, parce que j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne. Et donc je lui explique que ça ne marche pas comme ça, finalement, que ce sera juste un numéro qui va avoir juste un chiffre, que ça ne va rien lui expliquer du tout. Et donc, bah, je vous le donne en mille, hein, il ira voir quelqu'un d'autre jusqu'à que quelqu'un puisse...
Qui lui vendra son test de QI, voilà.
Voilà.
Et qui validera que ses enfants sont ou pas
voilà.
sûrs.
Il n'aura pas forcément plus compris son enfant par rapport à ce qu'il détermine comme étant son besoin du test. Il ne va pas forcément le comprendre plus en voyant qu'il a tel QI ou tel QI.
Exactement, et c'est la même chose avec la médecine. Vous avez des patients qui, au bout d'un moment, veulent tellement se faire opérer qu'ils arrivent à se faire opérer, malheureusement, parce que quelqu'un se sent mal à l'aise à l'idée de ne pas pouvoir répondre à une demande qui paraît quand même un peu légitime.
Mais quelqu'un qui a besoin d'une thérapie ou qui veut une thérapie, il a besoin de quoi, techniquement ? De quoi il a besoin ? Qu'est-ce qu'il vient chercher ? Quand quelqu'un vous dit, bah oui, voilà, j'ai besoin d'aller faire une thérapie, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous attendez, finalement, de cette psychothérapie ?
Par rapport au patient ?
Bah oui, par rapport au patient.
Ce qu'il va attendre, comme disait tout à l'heure Maximilien, c'est... c'est vrai qu'il y a une souffrance quelque part. La souffrance, ça peut être grande, ça peut être une pathologie qui l'handicape dans sa vie de tous les jours, comme ça peut être, je mets entre guillemets le mot petit, mais une petite souffrance, quelque chose qui est dérangeant pour lui ou qui le gêne et qu'il aimerait voir changer, soit comprendre. Vous avez des gens qui peuvent venir faire une thérapie pour comprendre quelque chose, pour comprendre leur comportement. Vous avez des gens qui ont un comportement, au fond le comportement les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est de pas comprendre pourquoi ils ont ce comportement. Donc ils ont besoin de trouver du sens dans leurs actions. Une fois qu'ils vont trouver les raisons de pourquoi ils font ce qu'ils font après quelques échanges, ils peuvent être complètement bien rassurés et continuer leur vie. D'autres personnes aimeraient changer leur comportement. C'est-à-dire quelque chose qui les bloque. Et c'est là qu'on va travailler en thérapie du pourquoi ce changement aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment envie de le changer? Est-ce que ça vous pose problème vous? Est-ce que ça pose problème aux autres? Vous voyez? Parce que souvent, vous avez des gens qui vont venir par rapport à ce que leur renvoie leur entourage, et souvent les familles d'ailleurs, ou le monde professionnel. Mm-hmm. Et ils ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose. Ils n'en ont pas forcément envie. Mm-hmm. Mais c'est comme si les gens leur imposaient. Donc, il y a un besoin de changement ou de compréhension la plupart du temps, je pense, dans cette recherche thérapeutique.
Un besoin de changement.
Ce qui est important également en tant que thérapeute, il me semble, et c'est une posture qu'on doit prendre, c'est qu'on reste, alors il ne faut pas utiliser ce terme-là dans un sens trop narcissique, mais on reste expert, dans le sens où on va devoir rencontrer la personne et l'interroger suffisamment pour comprendre ce dont elle a besoin. Un auteur qui est très connu, qui s'appelle François Roustan, très connu chez les psys, était psychanalyste, il est devenu hypnothérapeute, et il dit ceci qui est très important. Quand vous voulez déplacer une pierre, l'important, c'est pas tant le levier, c'est où est-ce que vous le placez. Si une femme vient me voir en me disant qu'elle est battue par son mari, moi, la question que je vais me poser à ce moment-là, c'est est-ce que je rencontre madame ? Ou est-ce qu'il serait pas plus intéressant de rencontrer monsieur également, voire la famille ? Et ça, c'est mon expertise. Je vais devoir défendre quelque chose auprès de la personne qui, elle, a une demande, mais peut-être qu'en y répondant, je vais peut-être pas pouvoir faire fonctionner les choses. Peut-être que je vais avoir besoin de travailler avec le mari également, qui peut-être aussi est en souffrance et n'attend que ça de pouvoir travailler avec moi. Là, on est plus dans une approche systémique, à se dire finalement, les gens viennent, ont une demande, mais il va falloir que je redéfinisse ça. C'est comme quand vous allez chez le médecin, vous dites j'ai mal au ventre, je pense que j'ai tel problème, et puis lui, finalement, vous ausculte et vous dit, mais vous êtes trompé, c'est pas ça votre problème, c'en est un autre. Donc en fait, l'idée de traitement que vous aviez n'est pas la bonne. Mais encore faut-il que la personne soit prête à entendre ça aussi.
Oui.
Vous voyez ?
Bah, si vous avez mal au dos et que subitement on vous dit que c'est pas votre dos qui fonctionne pas, mais votre foie, ça peut être surprenant.
Oui, exactement.
Mais d'où le besoin du cadre qui va déterminer justement un échange entre le patient et le thérapeute de manière à ce qu'il puisse entendre et comprendre. C'est-à-dire qu'on va pas lui dire tout de suite les choses qui sont pour lui, qui n'ont ni queue ni tête ou qui n'ont aucun lien avec sa demande. Ça peut prendre parfois un peu de temps, ça peut être parfois rapide, tout dépend en d'autres termes de l'alliance qu'il y a entre le thérapeute et le patient, donc justement ce feeling qui va se passer entre les deux. Et selon la place que le thérapeute va avoir pour le patient, il sera plus à l'écoute, vous voyez. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait confiance à son thérapeute ou qui le place justement dans cette position d'expert, il va accueillir en général les propositions du thérapeute dans le fait de demander de faire venir un membre de la famille ou le conjoint ou la conjointe.
Alors, donc tu veux dire qu'avant, que les thérapeutes étaient formés à une école et appliquaient ce qu'ils avaient appris sur cette école et rien d'autre, c'est ça ?
Bah, c'est toujours le cas. Hein. Ils sont toujours après l'approche dont parle Maximilien intégrative, elle va prendre en considération différents.
Non mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des thérapeutes aujourd'hui, ils sont sur une école et ils en sortent pas, ils appliquent
majorité, je sais pas.
C'est juste pour comprendre.
Parce qu'après, le thérapeute lui-même va faire des formations, va s'intéresser. Il peut être initialement formé à une école ou à un courant de pensée particulier, et lui-même va explorer en allant chercher d'autres formations, en s'ouvrant lui-même, il va aller acquérir d'autres outils. Et en réalité, même quelqu'un qui est vraiment fidèle à son courant de pensée et qui bouge pas, c'est assez rare. La plupart des thérapeutes utilisent en règle générale plusieurs outils, sauf qu'ils l'admettent pas forcément.
Oui, alors c'est vrai qu'en pratique, et notamment en France, on s'identifie, les psychothérapeutes s'identifient très rapidement à une chapelle en disant « moi je suis ça ». On peut même faire le parallèle avec la religion où finalement on est dans quelque chose qui peut être un peu trop fermé à un moment donné. Mais en pratique, il y a même une étude suisse qui explique que la plupart des thérapeutes ont un modèle de référence mais empruntent ailleurs. Ils empruntent ailleurs, mais il y a quand même une différence entre ce que vous dites publiquement et puis ce que vous faites derrière.
Ils font de l'intégration sans le dire. Ou peut-être sans le savoir.
Voilà.
Et parfois sans le savoir, c'est vrai, parce qu'ils vont utiliser quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qu'ils vont utiliser avec les mots du courant d'origine pour se convaincre ou en pensant qu'ils sont toujours fidèles et qu'ils n'ont pas trahi leur courant d'origine pour ceux qui sont vraiment attachés. Mais dans la pratique, il est normal d'utiliser d'autres outils en réalité. On ne peut pas s'arrêter à un courant de pensée, on ne peut pas s'arrêter à une école.
Mais c'est parce que Ali a une certaine ouverture. Vous avez beaucoup de thérapeutes qui vous diront que c'est pas vrai. Et historiquement, on sait bien que la France a un truc particulier avec la psychanalyse. Et beaucoup de psychanalystes vous diront comme ça en off, une fois le micro fermé, qu'en fait ils ont emprunté des choses et que leur maître n'aurait certainement pas apprécié ça.
C'est vrai.
Bien, alors on choisit la bonne thérapie pour nous ce matin avec Maximilien Bachelard qui est notre invité et Ali Habibi. Vous pourrez d'ailleurs poser des questions si vous en avez avec cette conversation au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Choisir la bonne psychothérapie avec aujourd'hui Maximilien Bachelard qui est psychologue et psychothérapeute et qui a écrit l'approche intégrative en psychothérapie. C'est l'anti-manuel à l'usage des thérapeutes et des patients, je devrais rajouter. Et puis Ali Habibi est avec nous, thérapeute des couples et de la famille.
Livre Philippe que je conseille réellement à tous les psys surtout. Alors c'est un livre qui est ouvert à tous, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont parfois peut-être un peu techniques pour les gens, on va dire, de la masse, mais tous les psys devraient lire ce livre. Vraiment très intéressant, bien fait, je le dis ouvertement. Alors, c'est pas dans ma c'est dans ma coutume de dire quand ça va pas.
Non. Mais c'est rarement.
Mais je dis rarement quand ça va parce que pour moi, je suis rarement satisfait. Et le livre m'a satisfait. Donc merci pour ce bouquin, Maximilien, et vraiment je le conseille à tous les collègues qui s'intéressent de près ou de loin à l'approche intégrative ou même à l'ouverture, tout simplement. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'enseignements dedans et ça pousse à la réflexion et c'est vraiment un livre à lire.
Voilà, donc on rappelle la définition de l'approche intégrative.
Alors, je m'attendais pas à ce que vous me redemandiez ça.
Non, mais c'est pour ceux qui prennent parce que si on leur dit qu'on est en train de parler de l'approche intégrative et qu'ils savent pas ce que c'est toujours pareil, on les perd.
L'idée, c'est de pouvoir appréhender les différents modèles qui existent. Les psychothérapeutes sont confrontés à différents modèles. D'ailleurs, je peux vous donner les quatre approches fondamentales que j'ai pu retracer dans le bouquin. L'approche psychanalytique, l'approche cognitivo-comportementale, l'approche humaniste et l'approche systémique. Et c'est de pouvoir réunir ces approches-là, aussi bien théoriquement qu'en termes d'outils, pour pouvoir aider au mieux un patient en particulier. Puisque l'idée, finalement, c'est de se dire que chaque personne aussi a son histoire propre et qu'on ne va pas pouvoir anticiper pour elle un plan de traitement à suivre. Mmh. On est dans le domaine des sciences humaines et également en médecine, de toute façon, on a toujours des ajustements à faire par rapport à un patient. Voilà.
Les gens ne savent pas très bien toujours en quoi ça consiste le métier que de psychothérapeute. Ils imaginent que c'est quelqu'un avec des lunettes de psychothérapeute qui est assis sur son fauteuil.
Maximilien n'a pas de lunettes.
Non, c'est vrai. Mais, et qui dort pendant que vous êtes en train de faire tout le boulot. Et finalement, je dis, ça sert à quoi un psy?
C'est toi qui as des lunettes.
Oui, mais je te laisse répondre.
Des lunettes de psy. C'est très important d'avoir des lunettes de psy.
Ah oui, donc. Quand tu vas chez l'opticien, tu demandes...
Je voudrais une paire de lunettes de psy. Et il sait de quoi...
T'avais pas les mêmes lunettes que...
J'ai changé de lunettes parce que...
La psychanalyste qu'on avait invité une fois. Non, il avait pas à peu près les mêmes lunettes que toi.
Non. Au plus confond des Ali.
Très bien.
À quoi ça sert finalement un psychothérapeute?
pouvoir sortir d'une souffrance dont on ne comprend pas forcément grand chose. Ça, c'est intéressant. Un des éléments dont on n'a pas beaucoup parlé, quand vous allez voir un thérapeute, il a des théories qui sont portées par son modèle. C'est-à-dire qu'il sait plus ou moins pourquoi vous n'allez pas bien, et il sait plus ou moins comment vous aider à en sortir. Et puis il a ses théories à lui, d'ailleurs.
Oui.
Et on va dire qu'il a une lecture du texte, donc là je vous refais l'analogie avec la religion, il a une lecture du texte qui lui est propre. Il le comprend d'une certaine manière, il se l'approprie d'une certaine manière. Et là, il y a déjà quelque chose d'important, c'est-à-dire que le thérapeute en face du patient va permettre de lui faire comprendre pourquoi il en est arrivé là. Ça vient donner une sorte d'harmonie. Dans l'approche cognitive et comportementale ou dans la psychanalyse, on a des explications sur pourquoi vous êtes dans la névrose, pourquoi vous êtes dans la psychose, pourquoi vous avez des tocs, pourquoi vous avez des angoisses, pourquoi vous
avez des pleurez, etc.
Vous avez des phobies, pourquoi c'est compliqué avec votre mère, pourquoi c'est compliqué au travail, pourquoi c'est, voilà, tout ce que vous voulez. Donc on a toujours des explications. On pourrait se dire finalement que une psychothérapie, elle est porteuse d'une idéologie, d'une mythologie même, sur pourquoi on en est là et comment on en sort. Il y a différentes façons de sortir de ça. Il y a des gens qui ferment les yeux pendant une séance d'hypnose. Il y a des gens qui s'allongent sur un divan. Il y a des gens qui vont faire des exercices. Ils vont prendre un petit carnet, puis entre les rendez-vous, ils vont pratiquer des choses. Ils vont venir à la radio pour parler, pour soigner leur phobie sociale, par exemple. Et puis, etc., etc. Donc on a différentes manières de voir les choses. On pourrait presque dire, donc je vais me permettre une petite analogie. Je vous renvoie à l'exoconférence d'Alexandre Astier que j'aime énormément.
Oui, excellent. Et alors une exoconférence, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'exoconférence, en fait, c'est le titre de son dernier spectacle où il parle de la présence des ovnis et il explique qu'en fait chaque population sur Terre depuis toujours a une cosmogonie, c'est-à-dire une façon de pouvoir se représenter le début de l'origine. Et on pourrait dire qu'en psychothérapie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait que vous développez une dépression ? On ne l'expliquera pas de la même manière selon les différentes psychothérapies. Et quand un psychothérapeute vous éclaire, je peux vous dire qu'il y a quelque chose là qui permet de faire un peu sens et surtout de vous retenir face au vide que fait la souffrance. Un autre parallèle que je peux faire, un peu plus personnel, quand j'ai compris finalement comment fonctionnait le Père Noël le 25 décembre, j'y ai cru un peu plus. Quand je suis allé en Finlande, je suis allé à Rovaniemi, j'ai vu le Père Noël, le vrai. Donc je vous l'informe, il m'a accueilli avec ma femme.
Alors il habille en rouge ou en vert
Il habille en rouge.
En rouge. Ah oui, évidemment. Donc, c'est peut-être pas le vrai alors.
Si, c'est le vrai.
C'est déjà le Père Noël Coca-Cola alors.
Je vous jure que c'est le vrai, il parle une quarantaine de langues et c'est assez fascinant, c'est une vraie histoire. Je suis arrivé à Rovaniemi, puis il m'a accueilli, il m'a parlé en français avec ma femme, que j'embrasse d'ailleurs, qui doit être en train de m'écouter. Et j'ai eu une explication sur comment il fait pour livrer les enfants tous en même temps le 25 décembre. Et en fait, j'ai pu voir qu'il y avait un mécanisme, je l'ai vu en vrai, j'ai encore les photos, un mécanisme qui permet de ralentir la rotation de la Terre. Et en fait, le Père Noël active ce mécanisme. Quand j'ai compris ça, en fait, la certitude que le Père Noël existait était d'autant plus forte. Quand vous allez voir un psychothérapeute et qu'il met du sens dans tout ce que vous ne comprenez pas dans votre vie, à un moment donné, vous adhérez un peu plus à ce qu'il vous raconte. Quand une personne me dit « je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça avec mon mari » et puis au bout d'un moment se rend compte avec le psychothérapeute qu'il y a vraiment une explication dans son histoire, là, d'un seul coup, elle commence à reprendre un peu la maîtrise de sa vie. Elle n'a plus des accès de colère qu'elle ne peut pas expliquer, elle est en train de se dire « oui, il y a quelque chose que je n'ai pas réglé, c'est vrai, je m'en rends compte ». Il y a quelque chose, par exemple, de générationnel. Ça fait 3 générations que les femmes ont des difficultés avec les hommes ou que les parents ont des difficultés avec les enfants. Voilà. Je me rends compte que je suis pris par quelque chose peut-être de culturel et je vais devoir en sortir. Les choses ne m'appartiennent pas complètement et le psychothérapeute est là pour me montrer ce que je peux travailler, ce qui ne m'appartient pas.
Ce qui veut dire que tous nos comportements ont une explication ?
Alors, je pense qu'ultimement, on n'a jamais une explication qui sera vérifiable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Jacques Lacan, ça va faire peur aux gens, Jacques Lacan, mais Jacques Lacan dit un truc qui est fascinant, je trouve que c'est la chose la plus fascinante. Il dit que, finalement, une théorie, on ne peut jamais vraiment la valider. Et il prend la métaphore des mots croisés. Quand vous faites des mots croisés, vous ne savez jamais vraiment, au final, si c'est les bons mots. Vous ne le savez pas, puisque vous n'avez pas la grille forcément pour vérifier. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que ça correspond aux définitions et que ça rentre dedans. Donc les mots à l'horizontale ne bloquent pas les mots à la verticale. Mais fondamentalement, au final, vous ne saurez jamais. Ce qui est important, c'est que ça tienne debout. Et donc, quand vous allez voir un psychothérapeute, il ne détient jamais une vérité incontestable. Il peut détenir une vérité qu'il a construite avec vous. la façon dont vous m'avez raconté votre histoire, la façon dont on est rentré en relation, va peut-être permettre de découvrir un sens ou peut-être de le créer. C'est ça aussi qui est important. Mais ultimement, on vient jamais chercher quelqu'un qui saurait tout. Enfin, si vous allez chercher Dieu en allant voir un psychothérapeute, il y a possiblement un problème à ce moment-là.
Alors Isma a composé le 01 53 48 3000 et patiente, donc je vous accueille. Isma, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez Maximilien et Ali Habibi.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors je me permets d'appeler car j'ai 45 ans. Depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vu différents psychanalystes, psychologues. Ça m'a rien donné dans ma vie. Et un jour, j'ai rencontré une praticienne, Safaï.
Une praticienne ?
Safaï.
Safaï.
Safaï, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est qui soigne le corps et l'âme.
D'accord.
Voilà. Et ça m'a carrément changé ma vie.
Ça vous a fait du bien ?
Ah oui, ça m'a fait du bien. Et si vous voulez, c'est... Alors, elle a plusieurs fonctions, hein, cette dame. Elle est aussi médium, elle est aussi guérisseuse, elle est aussi clairauditienne, énergéticienne traditionnelle chinoise. Et ça, vraiment, ça m'a fait mais beaucoup de bien par rapport. J'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés. J'étais très, très battue enfant.
Bon, ça reste une solution. Alors moi, je me permets de prendre un peu la parole. Ça reste une solution qui apparemment vous a été utile. Moi, ce qui me semble important quand on va voir quelqu'un, c'est de pouvoir se sentir mieux. Et la deuxième chose, mais c'est mon point de vue, c'est qu'on puisse garder une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'on reste pas dans une dépendance pendant 40 ans avec un thérapeute. Si c'est le cas, si vous vous sentez mieux et que les choses, elles tiennent, bah, c'est une très bonne chose. À l'hôpital, par exemple, on développe les médecines alternatives. L'hypnose, avant, c'était un petit peu d'une manière étrange. Maintenant, on le pratique. Moi, je suis formateur en hypnose également. Et voilà, ce qui passe un peu pour une hérésie auprès de certains peut provoquer des effets thérapeutiques chez les gens. Donc oui, il y a différentes pratiques qui peuvent avoir un effet thérapeutique. Ça ne les rend pas forcément psychothérapie, mais ça peut avoir un effet thérapeutique. Donc, ce qui m'importe, c'est que ça puisse tenir un minimum sur le long terme. Et c'est ça qui est bien.
Et aujourd'hui, vous la voyez toujours, Isma ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, je l'ai vue 4 fois.
Oui.
Et elle m'a, en fin de compte, par rapport à mon histoire de ma famille... J'ai compris beaucoup de choses. Donc, j'ai pardonné à ma mère à 45 ans. Et j'étais très très bien avec ma maman.
Donc, vous voyez, par rapport à ce que nous dit Isma, justement, je pense qu'un des mots les plus importants, c'est j'ai compris beaucoup de choses. Donc, il y a toujours cette recherche de sens, cette cohérence par rapport à ce qui nous arrive. Si pendant de 9 ans à 30 ans, je crois que c'était ça, donc pendant quand même une bonne période, vous avez suivi une cure psychanalytique, vous avez vu différents psychologues, et que ce travail analytique ne répondait pas à ces questions, justement, de sens et de cohérence, vous n'allez pas vous y retrouver, même si vous allez insister, parce que quand même, c'est quand même un sacré moment, vous voyez, de 9 ans à 30 ans, ça fait du temps. Et derrière, cette personne vous a aidé à trouver du sens et de la cohérence par rapport à ce qui vous posait problème. Et donc, une des choses peut-être qui vous a fait aussi du bien, c'est tout ce travail que vous avez fait derrière après avec votre maman et cette réconciliation.
Ah oui, et le pardon.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour moduler, moi je ne vous connais pas, mais je me dis que vous avez fait une psychanalyse, vous avez compris beaucoup de choses. Mais comprendre, en fait, ça permet...
Non, j'ai pas compris pendant la période j'ai vu de 9 ans à 30 ans, j'ai rien compris.
Ah, bon, bah alors, vous voyez, il y a la part de compréhension, mais je pense aussi qu'il y a une part de lâcher prise. C'est-à-dire que... Oui. Vous avez compris quelque chose, mais peut-être qu'au fond, vous le compreniez depuis un moment, ça peut arriver, mais vous avez lâché prise, vous avez lâché quelque chose par rapport à votre famille, il s'est passé quelque chose au fond de vous, et je pense pas que ce soit de l'ordre de l'intellectuel. Et d'ailleurs, vous le dites, c'était une approche corps et esprit.
Oui.
Donc, parce que ça, c'est très important, parfois on va voir des gens, on sait pourquoi ça va pas, c'est ce qu'on dit parfois pour la psychanalyse, on le sait pendant 15 ans, 20 ans, qu'on fait n'importe quoi, et tout le monde nous le dit. On a toutes les explications du monde, mais en fait, on continue, finalement, à souffrir. Et à faire la même chose. Et c'est là où, pour moi, il y a un problème. Et là, Isma, finalement, elle a trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une dose suffisante de pragmatisme pour que, dans son quotidien, elle puisse se sentir mieux. Et c'est ça le plus important, c'est de voir que les gens changent un minimum devant nous.
C'est l'objectif.
Voilà.
Merci, Isma, de votre témoignage.
Ces métiers-là, pour vous, c'est de la concurrence directe ou c'est deux choses différentes ?
Alors moi je peux répondre tout de suite, je vais vous le dire clairement. Il y a 3 semaines, alors j'habite dans un village qui s'appelle Gatin, qui est à 1 heure de Paris en Seine-et-Marne, entre Melun et Provins. Et on m'a envoyé une dame, et c'est un magnétiseur qui est là depuis des années, dans le village d'à côté qui me l'a envoyé. Je le connais pas ce monsieur, il a eu ma carte et il a dit faut que tu ailles voir ce monsieur. Et apparemment c'est une très bonne indication. Et parfois j'ai des collègues qui m'orientent des personnes qui n'ont pas grand chose à faire en psychothérapie. Et ce magnétiseur m'a envoyé. Donc c'est une concurrence si vous êtes très handicapé financièrement et que vous voulez absolument vendre quelque chose, mais je pense qu'on peut être complémentaire.
Bien sûr. Mais je pense aussi, non, oui. Je pense aussi, c'est-à-dire que non seulement l'intérêt que nous avons au-delà du travail que nous faisons, c'est surtout le bien-être du patient qui puisse justement se trouver, qui puisse aller mieux. Si ça peut passer par d'autres moyens, pourquoi pas. Vous avez au niveau culturel maghrébin et africain, vous avez aussi la question de la ruqya. Vous voyez donc tout ce qui est fait au niveau de la ruqya avec les araqis. Donc c'est ces personnes qui vont être des guérisseurs un peu, mais par la lecture du Coran. Ils sont pas forcément vus comme des psychothérapeutes. Certains sont des charlatans. C'est-à-dire que ça c'est une réalité. Mais vous en avez d'autres.
On en a déjà suffisamment parlé.
Oui,
mais c'est vrai.
Mais vous en avez d'autres qui ne sont pas des charlatans, qui vont apporter quelque chose à des patients qui vont les aider, qui vont, vous voyez, ils seront pas forcément, ils vont pas les pousser à être dans une dépendance, ils vont pas les manipuler, etc. Et ça va les aider sur un temps T et ça va faire beaucoup de bien aux patients et c'est tant mieux.
Oui. Merci Isma, on prendra d'autres appels dans un instant. Choisir la bonne psychothérapie ce matin jusqu'à 13h dans AVS à votre santé.
Midi 13h à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Maximilien Bachelard, qui est notre invité psychologue et psychothérapeute, qui a écrit l'approche intégrative en psychothérapie, et Ali Habibi, qui est là également avec nous. Qu'est-ce qui dépend du thérapeute et qu'est-ce qui dépend pas de lui? Quelle est la valeur ajoutée d'un bon thérapeute?
Je pense que le psychothérapeute a une certaine expertise, il a appris des choses, il a appris des techniques, il a appris des façons de voir les choses, il a pratiqué auprès de patients, mais il peut pas faire sans lui non plus. Donc, moi je vais tout de suite passer à la question 2, entre guillemets, c'est est-ce qu'un psychothérapeute ne peut être finalement qu'un professionnel? Et en fait, il reste un être humain. Donc je pense qu'un bon psychothérapeute est quelqu'un qui a vécu certaines choses. On peut pas forcément dire qu'il soit vieux, hein, 70 ans on peut n'avoir rien vécu, mais qu'il puisse avoir eu certaines expériences. Quand vous avez l'expérience de la tristesse, de l'angoisse, du détachement, du déracinement, du voyage, tout ça, vous êtes enrichi par quelque chose. Et ça peut vous permettre de faire avancer les personnes en face de vous encore mieux. Voilà, donc je dirais une certaine maturité. Moi j'ai mes indicateurs, la question de l'orgueil pour moi m'obsède énormément, parce que quand un expert est trop orgueilleux, il a tendance à ne pas pouvoir se remettre en question, il a tendance à ne pas forcément écouter la personne qui souffre en face, ou à catégoriser rapidement ses problèmes dans des boîtes. Donc pour moi un bon thérapeute doit réussir à moduler cet effet d'orgueil qu'on a tous, hein, qui est quelque chose d'humain. Voilà, c'est l'orgueil, la maturité sont des éléments qui sont importants pour moi, la formation bien évidemment, mais voilà, si vous n'êtes pas dans des dispositions mais comme un médecin par exemple qui pourra dire oui mais écoutez j'ai pas besoin de vous ausculter, ça fait 2 fois que vous venez, vous avez mal au ventre, je vous ai dit de prendre votre médicament, vous le prenez pas, et on peut avoir un médecin qui à ce moment là va pas faire l'auscultation et va passer à côté de quelque chose de grave. Ça c'est le quotidien de la médecine. Et pour les psychothérapeutes, il y a quelque chose de cet ordre-là également. Voilà, bon, donc je donne ces éléments, je ne sais pas si tu en as...
Non, mais je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'expérience, de légitimité. La légitimité, elle peut se faire par une vraie formation solide et pas par des petites formations fourre-tout où à la fin, certains vont après exercer et ça peut vite être catastrophique malgré des bonnes intentions. Donc une vraie formation solide, une expertise de terrain, il faut qu'il ait aussi pratiqué, et une expérience de vie, c'est-à-dire qu'il puisse mettre des mots dans ce qu'il a pu vivre lui aussi. D'où le fait qu'il est conseillé pour les psychothérapeutes de suivre eux-mêmes une psychothérapie, d'être supervisé, c'est aussi important. Vous voyez,
Superviser,
c'est de voir un autre thérapeute beaucoup plus expérimenté sur lequel vous allez, avec qui vous allez parler de ce qui se passe pour vous dans les séances.
Et de
la situation et de ce qui peut poser problème pour vous, des résonances qu'il peut y avoir, des choses qui vous bloquent, etc. Et de voir ça avec un superviseur, ça peut aussi vous aider, faire beaucoup de bien, et surtout vous rendre meilleur, j'ai envie de dire, dans le sens où meilleur, c'est être le plus. Alors, quand je dis le plus disponible pour le patient, c'est pas forcément, je parle pas forcément de temps ou d'espace. Mmh. Le plus disponible, c'est surtout le fait de pouvoir être là pour le patient, mais surtout pour lui, pas pour soi. Et c'est ça qui, quand on parle d'orgueil, justement, c'est pas de s'oublier, mais c'est de s'utiliser pour l'autre, pour pouvoir l'accompagner au mieux, je pense.
Alors, on va accueillir Djamila qui est avec nous. Bienvenue, Djamila.
Oui, bonjour.
Alors, Djamila, bonjour, Djamila. Rapprochez-vous de votre téléphone, enlevez le kit main libre.
D'accord.
Qu'on puisse mieux vous entendre. Alors, Djamila.
Oui, ça y est. En fait, je voulais poser une question par rapport à la sismothérapie. Je voudrais savoir si vous savez ce que c'est et ce que vous en pensez.
La sismothérapie ?
Oui, alors la sismothérapie.
Non. Donc, la sismothérapie, c'est une technique utilisée en médecine et plus précisément en psychiatrie, qui a eu mauvaise presse à une époque où, pour tout vous dire, c'était l'image qu'on avait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ah oui.
Voilà. Et c'est-à-dire
Matt Murphy.
Donc on. Voilà, exactement. On sent que vous l'avez bien enregistré, celle-là.
Ah bah oui, ça, je peux dire.
Et donc, la sismothérapie, finalement, c'est une technique qu'on utilise dans le milieu hospitalier face aux cas de dépression grave qu'on va appeler mélancolie, où d'accord. La personne est amenée, finalement, à se mettre en danger, et puisque on va dire que l'élan vital est en train d'être annulé et que la personne risque, par exemple, de mettre fin à ses jours. Donc, on a tendance à réactiver un peu le cerveau à ce moment-là. Je suis pas du tout un spécialiste. Je serai médecin, je vous répondrai plus aux questions, mais voilà, tout ce que je peux vous dire à propos de ça. Je ne sais pas si ça peut vous convenir.
Ah. Ouais. En fait, je voulais savoir ce que vous pouvez en penser, en fait, par rapport au fait si c'est bon ou pas, si c'est bien, si ça peut soigner.
Est-ce que je peux vous demander si c'est pour vous ou pas ?
Oui, en fait, j'en ai déjà fait.
Ouais.
Et je dois en faire encore d'autres.
Alors, quand vous dites « je dois », c'est-à-dire qu'on ne vous a pas proposé autre chose.
C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'on m'a proposé. D'accord. Et du coup, je me remets en question sur le fait que ça fait vraiment du bien ou pas, en fait.
Alors, pour tout vous dire, moi, quand j'entends ça, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je peux pas me mettre devant une décision médicale. En même temps, quand je vous entends au téléphone, vous avez l'air un minimum alerte. Donc, la seule chose que je pourrais vous dire, si vous avez un doute, tout simplement, autorisez-vous peut-être à rencontrer un thérapeute à côté pour avoir son avis. Moi, si on me propose de m'opérer demain, donc c'est déjà fait, dites-moi.
Ouais, je vois une psychologue, oui.
D'accord, et elle confirme que c'est une bonne chose, alors ?
Elle me dit que ça peut aider, en tous les cas. En tout cas, elle ne me dit pas que c'est mauvais.
Bon, peut-être qu'une concertation entre les deux serait peut-être intéressante, je sais pas. Parce que c'est important aussi que vous puissiez être un peu garante de... Enfin, oui. Pas garante, mais que vous puissiez participer. Oui. Et ça fait partie des lois françaises, hein, c'est que vous devez participer aux soins et ne pas simplement vous sentir utilisé. Ça peut être une bonne chose pour vous, au moins d'y aller...
Pas forcé, hein, de toute façon, je le fais parce que je suis d'accord, on va dire.
Oui, oui.
Mais en même temps, je me pose quand même la question, quoi.
Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'urgence, peut-être que ça peut être reporté. C'est peut-être ces questions que vous devez vous poser. Il faudrait voir aussi quels sont les arguments des médecins. Mais peut-être prendre part aux soins, c'est très important, vous savez. Parce qu'on passe de sujet à objet. Et ça, c'est très important. Et en médecine, on a souvent des difficultés. Mais je travaillais en centre de prise en charge de la douleur et beaucoup de gens allaient très mal après des opérations, des actes, parce que ils avaient eu la sensation de ne pas avoir le choix ou les explications. Mmh. Donc moi, je serais vous, j'irais un peu chercher ce qu'on va me faire, entre guillemets, ce qui sera pas forcément mauvais du tout, mais ce serait bien que vous puissiez savoir un peu, que vous participer à la décision par rapport à votre corps et votre esprit, quoi.
Afin de pouvoir être totalement rassuré, parce que malgré le fait que le médecin lui propose que la psy la rassure, elle n'est pas encore totalement rassurée, ce qui montre qu'il y a encore des résistances, qui montrent qu'il y a des choses qui sont encore inconnues pour elle et qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes ces questions ou ces interrogations.
Ouais.
Merci Djamila. J'aimerais, Maximilien Bachelard, qu'on parle de l'effet thérapeutique et de la psychothérapie.
Oui.
La distinction ?
Ouais.
La distinction qu'on peut
faire. On peut faire une distinction entre les deux. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de médecins parce que je suis entouré de beaucoup de médecins avec qui je travaille dans mon petit village. Et c'est vrai que il faut distinguer l'effet thérapeutique de la psychothérapie en tant que telle. Quand vous allez voir quelqu'un, vous pouvez vous sentir mieux. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va devenir votre psychothérapeute. Ça va peut-être devenir votre conjoint, ça va peut-être devenir votre coiffeur, ça va peut-être devenir votre médecin traitant. Mais il y a une différence à faire entre les deux. Il y a un auteur pour les psys qui écoutent peut-être, Balint a beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire l'effet que les médecins pouvaient avoir sur leurs patients. Et c'est vrai qu'on a des patients que je rencontre, je rencontre en ce moment des gens qui me disent, moi ça fait 10 ans que je vais voir mon médecin, ça fait 10 ans qu'il me donne du Seroplex, du Prozac, en tout cas des médecins, des médicaments, des psychotropes. Et puis ça va mieux à chaque fois que je vais le voir, mais ça rechute au bout d'une semaine, deux semaines, donc j'ai besoin de le voir très régulièrement. Moi, à ce moment-là, je me dis qu'il y a un effet thérapeutique, mais ça va à l'encontre de ce que je disais au début de l'émission. L'autonomie de la personne est entravée. Pour moi, sa liberté, son autonomie n'est pas spécialement respectée. Elle y trouve son compte. Le médecin y trouve son compte également. Et puis, moi, parfois, on me dit, ce serait bien que tu rencontres cette dame ou ce monsieur qui est là depuis 10 ans, qui ne veut pas changer, que je n'arrive pas à faire changer. Parfois, on me dit ça, le médecin me dit ça. Et je pense qu'il est important de différencier la personne dans ce métier et l'effet qu'on peut ressentir. Voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter des éléments, si ça suscite des questions, mais on peut rentrer dans un lien de dépendance qui me semble quand même à questionner.
Avec son thérapeute, oui.
Avec son thérapeute également.
Avec bien-être. Ouais,
la chose à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un effet thérapeutique et qu'on sent bien à un moment T qu'il y a une psychothérapie qui est faite.
Oui, oui.
C'est-à-dire que la psychothérapie, c'est un métier.
Exactement.
Et c'est un travail, donc c'est du boulot. Avoir un effet thérapeutique par rapport à donc ce que vient de dire Maximilien, par rapport à une action précise, ne fait pas de cette action ou même de la personne qui est en face un psychothérapeute ou une psychothérapie dans la relation.
C'est pour ça qu'il faut pouvoir différencier les demandes et les besoins. Mmh. Alors très clairement, moi j'ai des gens que je rencontre, ça va mieux. Je leur dis, vous savez, là je crois que c'est un épiphénomène, mais vous faites comme vous voulez. Les gens ont trouvé ce qu'ils voulaient, ils disparaissent au bout de 3 séances et puis ils reviennent au bout de 5 ou 6 mois. Et ils me disent, en fait vous aviez raison, j'ai changé de boulot mais ça continue de compliquer, je m'engueule encore avec mon nouveau patron. Et puis ça va toujours pas à la maison. Et puis comme je m'engueule encore plus avec mon patron, ça va de moins en moins bien avec ma femme. Moi j'avais perçu qu'en dessous il fallait travailler des choses chez cette personne, s'affirmer, trouver sa place, peut-être changer de voie professionnelle parce que le monsieur a fait comme dans sa famille, il a suivi les recommandations des parents. En tout cas, je suis en train de comprendre qu'il va faire travailler des choses. Ça va prendre un peu de temps. Et les gens reviennent parfois. Les gens reviennent et puis sont aptes à ce moment-là à travailler autrement.
Mais est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Par exemple, en thérapie, comment est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on fait des exercices pour apprendre à trouver sa place ? Comment ça se travaille, ça ? On devait l'illustrer.
Tout va dépendre déjà du thérapeute et
de l'approche qu'on va avoir.
De l'approche qu'il a. C'est-à-dire que si vous allez faire un psychanalyse, vous allez pas faire d'exercice. Vous allez vous allonger sur un divan, vous allez parler, etc. Si vous avez affaire à un TCCiste, ou même un systémicien, voire même un humaniste, il peut avoir des prescriptions de tâches. Alors, il peut avoir des exercices qui sont faits dans la séance, il peut avoir des exercices qui sont demandés à faire entre les séances, et après on en rediscute, la personne va voir des choses, va percevoir justement des choses qu'elle n'avait pas. Parce que c'est ça le but de l'exercice aussi et des outils qu'on va utiliser, c'est d'aider les patients à avoir une autre perception des choses, un peu plus large, un peu plus générale, et de voir des choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Et par rapport à ce que ça va émettre chez lui, on peut derrière en discuter, voir ce qu'il veut en faire. Mmh. Et de là, soit il le prend comme un levier qui va l'aider justement à changer son comportement, soit ça lui donne juste une indication qui va être une nouvelle piste éventuellement à parcourir, et ainsi de suite. Mais vraiment, tout va dépendre de l'approche du thérapeute.
Maximilien, vous êtes d'accord avec le mot outil ?
Alors oui, j'aime bien le mot outil, sachant que c'est pas toujours évident d'enfoncer un clou avec un tournevis, donc c'est la question de savoir comment on utilise les outils.
Après, oui.
L'outil en soi est intéressant, mais c'est aussi comment on va le tenir et comment on va s'en servir. Mm. Pour reprendre ce que dit Ali, peut-être qu'on pourrait donner des exemples un peu plus concrets pour comprendre.
Voilà, pour ceux qui peut-être hésitent. Vous savez, on a une grande partie des gens qui nous écoutent qui hésitent parce que ils disent, les thérapies c'est pour les gens qui sont fous.
Alors ça c'est une grande idée reçue. Les thérapies sont les gens pour qui... Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au psy. Le fou ne va pas voir un psy. Il ne va jamais voir un thérapeute.
C'est assez rare.
C'est-à-dire que, à la base, celui qui est vraiment dans la folie, il n'en est pas conscient.
Et il n'accepte pas forcément sa part de responsabilité.
Exactement.
Donc quand les gens viennent...
Il va pas faire la démarche. Il peut venir par la demande d'un tiers, de la famille, ou même peut-être de service. Mais donc le fou ne va pas voir le psy comme ça de lui-même. Mais les gens qui vont voir un psy ne sont pas forcément malades même. C'est-à-dire que il y a des fois des pathologies lourdes, il y a parfois des petits soucis de vie qu'on aimerait changer et qui sont totalement réglables avec une psychothérapie. Mais tu voulais peut-être citer un exemple par rapport à la question de...
On peut avoir, on peut, bah, on on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui fait des attaques de panique, des angoisses. Ça lui arrive, il a des suées, il a de la tachycardie, il est tout rouge, et il perd la mémoire à ce moment-là, et puis il vient me voir parce que il sait pas ce qui lui arrive. À ce moment-là, moi, un exercice que je peux donner qui est très simple, qui est plutôt comportemental, ça va être de dire, bah, écoutez, quand ça vous arrive combien de fois par semaine? Il va me dire, bah, je sais pas, je m'en rends pas compte, faites quelque chose. Bah, écoutez, non, je fais l'entretien, je rencontre la personne et je dis, pour la semaine prochaine, vous allez prendre un petit papier et puis à chaque fois que ça vous arrive, vous allez me noter à quoi vous pensez, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous ressentez dans votre corps à ce moment-là. La personne revient, on va dire que les trois quarts du temps, elle me dit, ah ouais, en fait, je me rends compte que ça arrive quand je rentre à la maison, ou quand je m'éloigne de mes enfants, ou quand je suis dans une situation professionnelle délicate, etc., etc. Donc elle est déjà en train de comprendre ce qui lui arrive, partant du principe que peut-être qu'elle a l'impression qu'elle va faire un arrêt cardiaque. Elle me dit, mais c'est pas dans la tête, c'est dans mon corps, monsieur, je vais pas bien, je prends des médicaments pour me désangoisser, mais en fait ça passe pas. Et donc déjà comprendre qu'est-ce qui active le corps est une très bonne chose. On peut avoir d'autres exercices. Une personne me dit j'en ai marre, ça se passe pas bien avec mon mari et puis je me rends compte qu'avec mon ex c'était pareil. Ah, bah peut-être qu'on va faire un génogramme. Un génogramme, c'est une représentation de la famille. Vous êtes marié avec, c'est comme un arbre généalogique. Mais déjà en commençant à questionner tout le système familial et comment ça se passe depuis plusieurs générations, les relations avec les parents, avec les enfants, avec les cousins, etc., on peut déjà commencer à dessiner des choses et à comprendre un peu dans quoi on est un peu embarqué. Donc ça, c'est des exercices qui permettent de se découvrir. On peut citer aussi le rêve éveillé, moi que je pratiquais à un moment donné, que je pratique beaucoup moins, où on va susciter une production onirique. On va faire une sorte de séance d'hypnose légère, où les gens vont s'observer dans une situation que je vais leur proposer. Et puis simplement, je vais noter ce qui leur arrive. Je vais noter ce qui leur arrive, comment ils arrivent à dépasser une étape, puis on va en discuter, ça va nous permettre de révéler un peu comment les gens fonctionnent dans leur vie, leur rapport au monde, leur rapport aux choses. Et quand la personne me dit, oui, j'ai bloqué sur un caillou, c'est très étrange, je me suis vu marcher sur une route, il y avait un caillou et je me suis écroulé devant, là, moi, j'ai pas besoin d'interpréter. J'observe juste ça et la personne, ça va la faire réfléchir. Ne vous inquiétez pas, si elle est investie dans la thérapie, elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Et donc, à moi, après, dans la rencontre, de pouvoir peut-être faire des liens, proposer et voir ce que ça suscite chez la personne.
Bon. On a d'autres exemples qu'on peut faire. Ça peut être la méditation, le travail sur la respiration pour les gens, justement, aussi, qui ont des crises d'angoisse. Et...
Maximilien Bachelard est un psy qui parle.
Oui, beaucoup. Oui. Je parle beaucoup.
Il y en a qui parlent pas, en fait.
Alors, oui, il y en a qui parlent pas, c'est pour ça que souvent, je dis aux collègues. Oui, on a bien compris. Merci.
Non, mais à la radio, non, à la radio, c'est plutôt une qualité.
Oui.
Mais même en thérapie, pour les gens qui viendront le voir, alors ceux pour qui ça plaira pas, ils changeront. Mais il y a des gens qui vont s'y retrouver dans le fait qu'ils puissent beaucoup parler et intervenir. Et...
Exactement.
Alors vous publiez l'approche intégrative en psychothérapie anti-manuel à l'usage des thérapeutes. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Ali Habibi.
Bah merci à vous, Philippe. Merci à Maximilien d'être venu et.
C'est une belle rencontre.
Et à bientôt. Oui.
On l'a partagé.
Je vous remercie. Également, je remercie Bure FM, Philippe et Ali. Merci.